Alors, bonjour à toutes et tous. Je voudrais tout d'abord remercier très chaleureusement Monsieur Charlebert, Monsieur Patrick Hess et Monsieur Borgeau pour leur invitation. Je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui afin de vous amener de l'autre côté de l'océan, en Amérique du Nord, mais dans une autre province francophone, dont je vais vous parler de la situation du Québec. Alors, en trois points. Donc, d'abord, une mise en perspective historique et sociologique des débats qui ont conduit à la déconfessionnalisation du système scolaire québécois, avec un cours original d'éthique et culture religieuse que je vais vous présenter. Je vais vous présenter les orientations et les contenus de cet enseignement. Et enfin, les défis et aussi les résistances que rencontre cet enseignement. Alors, au préalable, je dirais très rapidement quelques mots sur le Canada, qui est un vaste pays, qui est une fédération composée de 10 provinces et de 3 territoires, et où l'éducation est une compétence de juridiction provinciale. Il y a donc 13 ministères de l'éducation au Canada qui sont souverains en matière de politique éducative. Et donc, moi, je vais m'intéresser plus particulièrement à la situation du Québec, où donc les choix que je vais vous présenter sont des choix qui sont faits au niveau de la province du Québec par le ministère de l'Éducation. Je rappellerai également très brièvement sur le plan du droit qu'au Canada, il n'y a pas une référence explicite à la laïcité, mais que l'État est neutre et que si l'on considère, comme Jean Bobéreau et Micheline Milot l'ont formulé, que la laïcité, c'est un mode d'organisation politique qui vise la protection de la liberté de conscience, l'égalité entre les citoyens, quelles que soient leurs convictions religieuses ou philosophiques, mais que c'est également une situation où l'État est neutre sur le plan des religions, on peut dire que de facto, le Canada est un pays laïque. Cependant, il existe au Québec des débats extrêmement vifs sur la laïcité dans la sphère publique et il y a des projets politiques qui sont à l'étude sur une possibilité d'établir une charte de la laïcité qui concernerait entre autres la neutralité des agents du service public. Alors ce n'est pas mon propos, je ne vais pas m'y attarder plus longtemps, je vais directement vous présenter donc la situation. Donc le Québec, c'est une société très intéressante, c'est une société qui est profondément marquée par le christianisme, pour des raisons historiques et culturelles, mais qui connaît une diversification religieuse de plus en plus importante. De fait, il y a, en lien avec les flux migratoires, une diversité donc avec la présence de l'islam, de l'hindouisme, du bouddhisme. Et si le catholicisme reste la première religion d'appartenance, il y a plus de 80% de la population qui se définit au Québec comme catholique. Évidemment, il resterait à savoir qu'est-ce qu'on entend lorsqu'on se définit comme catholique. Le second groupe, néanmoins, qui est croissant, c'est celui des personnes qui se déclarent sans appartenance religieuse. Alors, c'est également une société profondément sécularisée. Certains historiens disent que, de fait, le Québec est devenu l'une des sociétés les plus radicalement sécularisées de l'Occident. Donc une sécularisation, une perte d'influence de l'Église catholique aussi bien sur les consciences individuelles que sur les normes collectives, extrêmement forte et assez rapide, qui s'est développée au Québec depuis ce qu'on appelle la Révolution tranquille, c'est-à-dire les années 60. Alors, depuis justement les années 60, il y a une réflexion sur la déconfessionnalisation du système scolaire, avec l'idée qu'il faudrait mettre un terme aux enseignements de religion pour les remplacer par un enseignement culturel sur les religions. Et une étape très importante, en 1999, il y a vraiment des parallèles très intéressants à faire dans le développement historique que nous avons connu au Québec et qui se passe ici également à Genève. Il y a des dates clés. Et donc, le ministère de l'Éducation confie alors à un ensemble de chercheurs un rapport sur la place de la religion à l'école. Et ce rapport propose en 1999 donc, d'abolir les statuts confessionnels des écoles, de supprimer tout enseignement confessionnel et de remplacer les enseignements religieux. Alors, il y avait deux enseignements religieux qui étaient proposés, un enseignement de religion et de morale catholique, un enseignement de religion et de morale protestante, et pour ceux qui ne souhaitaient ni l'un ni l'autre, un enseignement de morale, qui n'était pas qualifié, mais qui était non confessionnel. Donc le rapport Proulx propose de supprimer ce régime d'option pour le remplacer donc par un enseignement unique, commun à tous les élèves, dont voici les principaux buts. Fournir aux élèves la formation nécessaire pour comprendre la place qu'occupent les religions et les courants de pensée séculières dans la vie des individus et des groupes, que ce soit au Québec ou ailleurs dans le monde. Contribuer à l'éducation à la citoyenneté des élèves et les préparer à vivre dans une société marquée par le pluralisme idéologique, culturel et religieux. Et enfin, aider les élèves à se situer d'une manière éclairée, réfléchie, critique, dans leur propre recherche de sens. Alors, cette dernière considération n'a pas été prise en compte dans le programme que je vais vous présenter. Alors, il y a eu vraiment un exercice de délibération démocratique extrêmement riche, extrêmement fécond. Il y a eu de très nombreuses auditions suite à ce rapport, qui lui aussi, qui proposait également une nouveauté tout à fait intéressante, qui est l'idée de laïcité ouverte. Alors, il existe évidemment un débat extrêmement riche et parfois polémique sur faut-il adjoindre à la laïcité un qualificatif, lequel et pour quelle raison. Et voici comment la laïcité ouverte est définie dans le rapport Proulx que je viens d'évoquer. L'idée, c'est, si on veut le résumer, c'est une laïcité, mais qui reconnaît le rôle positif que les religions peuvent jouer dans la société et dans l'éducation. Donc, c'est dans cette conception de la laïcité ouverte que prend place le programme d'éthique et culture religieuse que je souhaite vous présenter ce matin. Alors, à partir de ces années 2000, va s'accélérer la déconfessionnalisation du système québécois, qui, comme vous le voyez, est beaucoup plus récente, par exemple, que celle survenue en France, mais qui est vraiment tout aussi radicale. Alors, en 1998, on substitue à des commissions scolaires confessionnelles, qui étaient catholiques ou protestantes, des commissions scolaires linguistiques, francophones ou anglophones. Premier changement de taille. Deuxième changement de taille en 2000, donc vous voyez que c'est un phénomène quand même très récent. Toutes les écoles perdent leur statut confessionnel et deviennent laïques, commune et ouverte à tous les enfants d'un territoire. Donc c'est de facto la laïcisation du système scolaire qui, en 2005, se conclut, ou se prolonge plus exactement, par l'annonce par le ministre de l'Éducation d'un nouveau programme qui va se substituer donc au programme de religion qui prévalait jusque-là et qui va être un enseignement obligatoire pour tous les élèves. C'est-à-dire qu'au lieu que les élèves soient séparés sur une base confessionnelle ou sur une base de choix de cours, dorénavant, tous les élèves sont ensemble, assistent au même cours ensemble, donc dans cette approche culturelle du fait religieux sur laquelle je vais revenir et également dans une formation à l'éthique. Voilà comment le programme est défini, ces différents principes s'ancrés dans la culture québécoise, alors ses valeurs, mais aussi son architecture, son langage, la toponymie, etc. Prendre acte de la diversification croissante du paysage religieux, marqué par l'arrivée de nouveaux groupes religieux, parce que je dirais que la culture québécoise est une culture majoritairement chrétienne, de fait, donc c'est prendre en compte cette diversité religieuse croissante, respecter la liberté de conscience et de religion, c'est un point extrêmement important dans le programme, la liberté de conscience et de religion des élèves doit être protégée, doit être respectée, et enfin favoriser le vivre ensemble et la cohésion sociale. Voilà un objectif très transversal en fin de compte à la situation dans nombre de pays, donc comment arriver à vivre ensemble au-delà des diversités qui pourraient éventuellement séparer les personnes. Donc voici le programme donc, tel qu'il est annoncé. Donc, comme on le voit, il s'agit d'enrichir la culture générale, de s'offrir aux autres avec tolérance et respect, de permettre aux jeunes d'agir de façon responsable, de leur apprendre à vivre ensemble au sein d'un Québec démocratique et ouvert sur le monde. Voilà donc très rapidement pour la mise en perspective historique, sociologique, on pourrait dire politique également, de l'implantation de ce programme, dont j'en viens maintenant, deuxième temps de ma communication, au contenu même et aux finalités même de ce programme. Alors ce programme est caractérisé par deux finalités qui sont des finalités vraiment de nature philosophique et politique. La première, dans la lignée du philosophe canadien Charles Taylor, qui a beaucoup travaillé sur la question de la reconnaissance, eh bien, la première finalité de ce programme, c'est de permettre la reconnaissance de l'autre, qui est liée au principe selon lequel toutes les personnes sont égales en valeur et en dignité. Alors, la reconnaissance de l'autre passe bien évidemment par la connaissance de soi, mais vous voyez que la reconnaissance de l'autre va au-delà de la simple connaissance. Je dirais que c'est un préalable nécessaire, évidemment. Mais il s'agit également de reconnaître l'autre dans sa différence. Et justement, une fois qu'on a procédé, qu'on a pu développer cette reconnaissance, il ne faut pas perdre de vue ce que l'on appelle la poursuite du bien commun, c'est-à-dire l'idée que l'on va chercher avec les autres des valeurs communes, on va valoriser des projets qui favorisent le vivre ensemble et on va chercher à promouvoir des principes et des idéaux démocratiques de la société québécoise. Donc il y a véritablement un projet politique qui cherche à promouvoir l'appropriation par les jeunes d'une culture publique commune, le désir, au-delà des différences, de rechercher des valeurs partagées par tous, dans ce que j'ai appelé une volonté de concilier le soi, l'autre et le nous. Et je pense que cet aspect-là, la poursuite du bien commun, travailler ensemble sur le nous collectif, est un élément extrêmement important. Alors, dans la perspective de la pédagogie socio-constructiviste de l'école québécoise, où les élèves sont au centre des apprentissages, il y a trois compétences à développer. La réflexion sur des enjeux éthiques, la compréhension du phénomène religieux, ce qu'on pourrait qualifier de culture religieuse, et la pratique du dialogue. Alors, la première compétence de ce programme, la réflexion sur des enjeux éthiques. Donc, de quoi s'agit-il ? Il s'agit d'éthique et non de morale. On pourrait longuement discuter sur la différence entre les deux, mais le choix est vraiment un choix qui n'est pas anodin. Il s'agit de réfléchir sur des questions éthiques, sur les valeurs, sur les normes que choisissent des individus, que choisissent des groupes dans la société pour fonder leur action. Et ce qui est également important, c'est de travailler à l'analyse, l'étude de la construction du bien commun que j'évoquais tout à l'heure. Néanmoins, nous ne sommes pas dans un modèle totalement irénique parce que un point extrêmement important, c'est que lorsqu'on travaille sur des questions éthiques, il doit y avoir des tensions qui apparaissent, des tensions entre des valeurs, des tensions entre des normes, et on ne cherche pas forcément à résoudre ou à dépasser ces tensions, mais ce qu'on cherche, un peu en écho à la remarque de monsieur par là tout à l'heure, on cherche à réfléchir et à raisonner de façon argumentée. On mobilise vraiment la raison, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans le stade de l'opinion, je pense que, ou je ne suis pas d'accord, mais voilà les raisons qui me permettent de dire ou d'appuyer ce que j'avance en référence à tel élément. Donc vraiment, l'apprentissage du raisonnement argumenté est extrêmement important. Donc les élèves doivent être capables d'analyser une situation d'un point de vue éthique, d'examiner une diversité de repères, qui peuvent être des repères culturels, des repères religieux, moraux, scientifiques, sociaux, et d'évaluer des options ou des actions possibles dans ces situations éthiques. Alors, juste très rapidement, voici quelques thèmes. Alors, évidemment, on a une progression des apprentissages qui se fait en lien avec la maturité des élèves. Donc, au primaire, je dirais qu'on part des priorités immédiates des enfants, ce qui se passe dans leur environnement. Vous avez tous les thèmes ici. Donc, la vie à l'école, les règlements, les relations entre les humains, les relations entre les humains et les autres êtres vivants, toutes les exigences de la vie en groupe ou de la vie en société. Et au secondaire, on va toucher des thèmes que je dirais qui sont de nature philosophique, comme la liberté, l'autonomie, la tolérance, l'avenir de l'humanité, donc toutes les questions d'écologie, par exemple, la justice, l'ambivalence de l'être humain. Donc un programme, vous voyez, qui était ambitieux dans ses contenus et dans ses visées. Deuxième partie du programme, Et c'est un choix très original qu'a fait le Québec, qui est de mettre dans un seul et même programme une réflexion éthique de nature philosophique et une compréhension du phénomène religieux, un volet de culture religieuse. Donc, voici la façon dont ce programme de culture religieuse est défini. L'idée, c'est de comprendre, en fin de compte, les différentes expressions du religieux que l'on peut voir dans la société québécoise, mais qu'on voit aussi dans le monde, et d'être capable de les saisir, de les situer dans un environnement socioculturel bien précis, et donc de comprendre ces signes religieux par lesquels s'expriment les appartenances religieuses, individuelles ou collectives. Donc il y a vraiment une visée de compréhension de cette diversité religieuse. Alors, avec à la fois un souci de considérer les points communs entre ces différentes traditions, mais également la diversité entre ces traditions, la diversité interne également, sans jamais oublier, c'est extrêmement important, la prise en considération des visions séculières du monde. Il y a vraiment ce souci-là d'intégrer cet humanisme et de le prendre en considération. Alors, les élèves doivent être donc capables d'analyser des expressions du religieux, d'établir des liens entre ces expressions du religieux et l'environnement social et culturel, tel que je viens de l'évoquer, et d'examiner une diversité de façons de penser, d'être et d'agir. On va porter un regard privilégié sur le patrimoine québécois. Donc, le programme va accorder une place spécifique au catholicisme et au protestantisme, qui sont les traditions qui ont façonné l'histoire du Québec. On va accorder également une place importante au judaïsme qui est présent au Québec depuis le XVIIIe siècle, bien évidemment aux spiritualités des peuples autochtones. Et à cet égard-là, j'ai été très contente de voir dans les grands textes qu'il y avait des textes sur ces spiritualités que souvent on méconnaît et qui sont constitutives là aussi de l'histoire et de l'identité du Québec et du Canada. Et on va s'ouvrir à la diversité religieuse des sociétés contemporaines avec donc l'islam, l'hindouisme, le bouddhisme et donc, comme je le disais tout à l'heure, les représentations séculières du monde. Alors, les thèmes rapidement, là encore, au primaire, on part des préoccupations immédiates des enfants, donc les célébrations, les récits marquants, les récits de création, par exemple, les pratiques en communauté, tout ce qui peut se manifester dans l'environnement du jeune, et au fur et à mesure des apprentissages, de la maturité des élèves, on va aller vers des thèmes plus larges. Je dirais que le programme met surtout de l'avant la notion de récit, la notion de rite, les rites et les pratiques, et la notion des valeurs et des règles. Ce sont ces trois aspects-là qui sont mis de l'avant, et donc c'est un programme, comme vous le voyez, qui est fort riche et ambitieux. Voilà pour le secondaire. Donc, au secondaire, il y a un aspect patrimonial, un aspect culturel très important. Il y a un thème, par exemple, absolument magnifique, les références religieuses dans les arts et la culture, qui permet de travailler aussi bien les textes que l'iconographie, que les arts au sens large, et qui est extrêmement fécond, évidemment, pour travailler des questions de culture religieuse. Donc là aussi, on a une progression en fonction de l'âge et de la maturité des élèves. Et enfin, troisième compétence, et je dirais non la moindre, et qui est vue comme vraiment celle qui fait le lien entre toutes les finalités du programme, c'est la pratique du dialogue, donc, qui veut donc responsabiliser les jeunes dans leur façon d'agir par rapport à eux, par rapport aux autres, par rapport à la société, et qui veut leur permettre, alors il y a, je dirais, un dialogue qui se pratique en trois temps, hein, une dimension réflexive, donc on organise sa pensée, on réfléchit, donc on n'est pas dans la spontanéité, enfin on peut être dans la spontanéité, mais on va essayer de prendre de la distance pour argumenter ce que l'on va avancer comme réponse. On est dans l'interaction avec les autres et on élabore également un point de vue construit, un point de vue étayé. Alors, le contenu, là, n'est pas un contenu de connaissance, c'est un contenu plus formel, bon, sur lequel je passe très rapidement. C'est sur les différentes formes du dialogue, les moyens pour élaborer un point de vue, pour interroger un point de vue, et également tous les sophismes. Qu'est-ce qui peut nuire à une bonne pratique du dialogue dans la société et dans la classe ? Voilà, donc le dialogue est vraiment, je dirais, l'une des principales finalités du programme au service du projet politique du vivre ensemble. C'est un processus de réflexion, de délibération également. Alors, je m'intéresse beaucoup au modèle Genevois en cours d'implantation et j'ai voulu faire dégager quelques points de convergence entre le modèle québécois et le modèle Genevois. Alors, la réflexion sur les grandes questions existentielles, les récits d'origine, les représentations de la mort et de l'au-delà, sont prises en compte dans les programmes et ce sont des questions extrêmement importantes. L'approche culturelle des faits religieux. On n'est pas dans une approche confessionnelle, l'objet religieux est un fait de culture qu'on va analyser avec une distance critique et avec différents outils méthodologiques. À mon avis, ce qui est l'essentiel, s'il y a une visée particulièrement importante, c'est celle de la signification, celle du sens. Moi, je dis toujours à mes étudiants, il est important de comprendre, de connaître tel rite, mais il est surtout important de comprendre quelle est la signification de ce rite pour les personnes qui le vivent. Donc, toute la dimension de signification est extrêmement importante et elle m'a paru être aussi constituer une priorité ici dans les choix qui sont faits. L'ouverture à la diversité des cultures humaines, bien évidemment. Hein, Genève comme Montréal sont des villes extrêmement diverses sur le plan des cultures et sur le plan des religions. Donc connaître et respecter les différences, mais au-delà de la connaissance, comme je le disais tout à l'heure, la reconnaissance de l'altérité. Donc vraiment une démarche de reconnaissance qui, à mon avis, a pour corollaire une exigence de réciprocité. C'est-à-dire que je veux bien reconnaître l'autre, mais je veux que l'autre me reconnaisse aussi tel que je suis, et, y compris dans mes différences. Une autre visée, c'est de mieux comprendre évidemment le monde dans lequel nous vivons. Et enfin, favoriser un meilleur vivre ensemble, qui est vraiment une finalité extrêmement importante. Alors, après vous avoir présenté ce panorama, certes rapide, de ce programme, je voudrais maintenant vous dire quelques mots. Je ne sais pas combien de minutes, je n'ai pas regardé ma montre. 5 minutes, d'accord. Donc, je vais aller assez rapidement, on pourra y revenir peut-être dans le débat. On a tendance parfois à dire qu'ailleurs l'herbe est plus verte, mais nous avons, avec ce très beau programme, un certain nombre de défis et un certain nombre de résistances et de contestations que je voudrais maintenant évoquer, qui font partie du jeu démocratique, bien évidemment. Un premier défi, c'est celui de la formation des enseignants. Et je crois que là, on se retrouvera tous, quel que soit le programme qu'on a, la question de la formation des enseignants. Alors, c'est une de mes spécialités, donc je suis vraiment au cœur de la formation initiale et de la formation continue des enseignants. J'ai l'intime conviction qu'on ne peut bien enseigner que ce que l'on maîtrise, ce que l'on comprend et ce que l'on aime. Et ce que je vois par tous les échos que j'ai sur le terrain, c'est que cet enseignement fonctionne très bien quand l'enseignant lui-même est enthousiaste et il participe avec beaucoup de motivation dans le choix des thèmes, dans les pratiques pédagogiques qu'il va choisir. Mais évidemment, ce n'est pas facile. Et la formation, nous, on a eu un défi absolument immense, c'est qu'on a implanté ce programme de façon synchronique au primaire et au secondaire en 2008 et on a un peu la même chose qu'ici par rapport au temps du politique et le temps du pédagogique et à partir du moment où le politique décide, ben le monde pédagogique court après mais c'est parfois un petit peu difficile, donc on a eu peu de temps pour former les enseignants et je dirais que c'est une formation donc, qui de fait doit continuer à être soutenue. Et un point très important sur lequel je voulais vous dire un mot, c'est la posture professionnelle. C'est une posture professionnelle très exigeante, c'est-à-dire que l'enseignant, voici la formulation exacte que vous avez sous les yeux, l'enseignant doit faire preuve d'un jugement professionnel empreint d'objectivité et d'impartialité. Donc évidemment, l'enseignant n'est pas neutre, nous ne sommes pas neutres, nous sommes porteurs de valeurs, ne serait-ce que les valeurs du système éducatif auquel nous appartenons. Mais lorsqu'on traite de culture religieuse et lorsqu'on traite de questions éthiques, on doit mettre à distance nos propres convictions pour faire place à la diversité des convictions qui s'exprime dans la classe. Donc évidemment, cette posture professionnelle peut susciter des questionnements, des interrogations, voire des résistances, mais elle m'apparaît comme absolument nécessaire. Alors, un mot très rapidement sur les résistances. En fait, il y a trois types de résistance. Je vais très rapidement en évoquer deux, parce que je pense qu'elles peuvent faire écho peut-être à des arguments qui ont pu s'exprimer ici, et qui se sont exprimés en France, et qui s'expriment dans nombre de sociétés. Une première résistance, une première contestation, donc, qui est allée jusqu'en Cour suprême du Canada, donc il y a eu des procès, c'est allé très loin. C'est la première fois qu'un programme était contesté à un tel niveau juridique. Ce sont des parents, principalement des parents catholiques, qui considèrent que ce programme est une atteinte à la liberté de religion et de conscience des enfants et d'eux-mêmes, que c'est un programme qui promeut le relativisme par le fait d'exposer les enfants à la diversité. Donc c'est quelque chose de néfaste qui vient interférer avec la construction identitaire de l'enfant et qui vient interférer avec la capacité des parents à transmettre leur foi à leurs enfants. Donc ces parents ont fait une demande d'exemption de ce cours qui leur a été refusée. Donc ils sont allés devant une première instance judiciaire et je vous montre le jugement d'un premier procès qui dit que, en fin de compte, le juge ne voit pas pourquoi ce programme brime la liberté de conscience, dans la mesure où on fait une présentation globale des diverses religions. Il faut savoir qu'au primaire, le volume horaire est d'une heure. Alors c'est sûr qu'une heure par semaine pour déconstruire une identité religieuse, c'est peut-être lui prêter plus d'effets néfastes qu'il pourrait vraiment le faire, mais bon, sans obliger les enfants à y adhérer. Bon. Les parents ne se sont pas satisfaits de ce jugement et nous avons donc une instance au Canada qui est l'instance suprême juridique, qui est la Cour suprême. Donc ils sont allés porter leur cause en Cour suprême. Elle a été entendue et voici le jugement très intéressant également qui dit que l'exposition des enfants à la réalité de la diversité religieuse constitue un fait de la vie en société. Que exposer des enfants ne porte pas à cette diversité ne porte pas atteinte à la liberté de religion, et que de fait, il y a une réalité multiculturelle, il y a une réalité de diversité, et qu'il est de la responsabilité de l'État que de préparer ses enfants à cette diversité. Et l'État étant neutre, l'État n'a pas justement à promouvoir une religion plutôt qu'une autre. Ce qui posait problème avec le modèle précédent, où de fait les enseignements catholiques et protestants étaient privilégiés par rapport aux enseignements d'autres religions. Donc là, un premier type d'argument que je dirais du côté religieux, hein, en tout cas de certains acteurs religieux, qui voient mal donc cette diversité religieuse et qui la jugent néfaste pour la construction identitaire religieuse des enfants. Et complètement de l'autre côté du spectre, une critique très laïque, alors par exemple le mouvement laïque québécois, qui considère que ce programme est un programme néo-confessionnel. C'est un argument qu'on a énormément entendu en France au moment aussi des réflexions sur l'enseignement du fait religieux, c'est qu'en fin de compte c'était une forme de caché de retour des religions à l'école. Alors en France, évidemment, ça, c'était depuis la fin du 19e siècle que l'enseignement religieux n'était plus présent et que c'était donc un retour déguisé du religieux à l'école et qu'en fin de compte, il y a des visées prosélytes qui ne sont peut-être pas explicites et qui ne sont pas dites, mais le fait de parler de religion, c'est faire du prosélytisme. Donc en fin de compte, les religions relèvent de la stricte sphère du privé et devraient à ce titre relever uniquement des discussions qui peuvent avoir lieu en famille, mais certainement pas à l'école. Donc eux, ils garderaient le volet éthique du programme pour sa dimension de réflexion, mais ils supprimeraient donc le volet de culture religieuse. Et puis un autre groupe aussi qui a fait tout un ensemble de considérations sur la laïcité, c'est le Conseil du statut de la femme qui trouve que le programme, d'une part, accorde trop de place aux religions et pas suffisamment à la critique des religions ou aux visions séculières du monde, et qui trouve également que le programme, c'est vrai, ne cherche pas à soulever des questions trop litigieuses, mais ce n'est pas son but. Donc, trouve que le programme ne souligne pas assez le caractère discriminatoire des religions à l'égard des femmes. Il y a là une vision des religions comme étant des systèmes patriarcaux très oppressifs. Et évidemment, ça s'inscrit dans tout un discours féministe québécois très riche à cet égard. Ma dernière critique relève vraiment du contexte politique québécois, donc je n'ai pas trop le temps de m'y attarder. C'est juste que ce programme, peut-être qu'on y reviendra dans les débats, je ne sais pas si vous avez entendu parler des accommodements raisonnables et de tous les débats politiques et juridiques que ça pose. Et c'est l'idée que ce programme fait, là encore, l'apologie du pluralisme au détriment de l'identité nationale québécoise, qui est une identité plus chrétienne et qui est une identité politique et linguistique extrêmement forte. Voilà. Et donc, en conclusion, voilà. Donc, c'est un programme extrêmement riche, comme vous le voyez. C'est un programme novateur, donc c'est un programme qui bouscule des pratiques enseignantes par la nouveauté de son contenu, par la nouveauté de sa posture professionnelle que j'évoquais tout à l'heure, et qui vient aussi bousculer des représentations de la religion et de la place que celle-ci devrait occuper dans l'espace scolaire. Pour certains, il y a trop de religion à l'école, pour d'autres, il n'y en a pas assez, ou en tout cas, la place qui leur est donnée n'est pas la bonne place. Il faudrait que ce soit un enseignement confessionnel. Et ce qui est particulièrement intéressant, me semble-t-il, c'est que c'est un programme extrêmement riche et novateur et en même temps plein de défis avec ses finalités philosophiques et politiques. Et ce qui serait intéressant, évidemment, c'est de voir, après toute une génération qui a suivi tous ces cours, faire un peu un travail comme dans Redco, voir si les élèves qui ont suivi tout ce programme-là ont véritablement cheminé dans une ouverture à l'autre, dans une reconnaissance de l'autre et dans une volonté de construire le bien commun. Voilà. Merci pour votre attention.
Merci et merci pour votre conclusion qui nous met tous en face d'un défi relativement important, je crois. Est-ce qu'il y a je pense qu'il y a des questions. Je vous signale que les premiers à lever le bras sont les premiers servis. Non ? Oui ?
Là, il y a une question.
C'est à la fois une question pour vous, mais aussi pour les personnes qui sont à la tête du département ici. Je suis enseignant. Et il m'est arrivé d'être confronté à la question du débat religieux dans une classe. Je suis enseignant de maths, donc c'est quand même étonnant que ça arrive aussi en maths. Et donc, vous dites, et je l'ai entendu dans vos interventions, que l'enseignant doit avoir une stricte retenue. Dans l'autre cas, on entend qu'on devrait être un modérateur si on en parle. D'abord, est-ce qu'on a droit d'en parler quand on est interpellé ? Et si oui, est-ce qu'on doit être juste un modérateur dans une telle discussion, ou est-ce qu'on peut aussi, si on est appelé à, si on nous le demande, exprimer nos propres convictions ?
Mm-hmm. D'accord. Alors, l'enseignant est conçu comme un passeur culturel, celui qui passe la culture, qui transmet entre la culture du passé, la culture du présent et l'avenir, et ça, quelles que soient les disciplines. Alors, effectivement, cette posture professionnelle nous invite, en tant qu'enseignant, à la réserve, hein, la réserve sur nos convictions. Et on pense spontanément en religion, mais je dirais que c'est aussi des questions d'éthique. Par exemple, si on discute de la question de l'avortement, c'est des questions tout aussi sensibles sur lesquelles chaque individu a ses propres représentations. Alors, le principe, c'est de ne pas faire part de ses convictions. Maintenant, je vous dirais qu'en discutant avec des enseignants sur le terrain, certains, au nom de la valeur de l'authenticité, me disent « Moi, si des élèves me questionnent, je veux être vrai avec eux et je veux pouvoir leur dire ce que je pense. » Alors, soit qu'on le fasse, par exemple, après le cours, à la pause, et dans un contexte plus privé, soit qu'on le fasse de façon plus publique, mais en disant bien que ce qu'on pense ne doit pas les influencer, parce que c'est ça l'inquiétude. C'est que les enfants, dans une volonté de se dire « bon, ben, si l'enseignant a dit ça, c'est ça qu'il va vouloir comme réponse, donc c'est ça que je vais dire pour lui faire plaisir », on veut surtout pas ça. On veut que les enfants, les jeunes, se positionnent par rapport à leurs propres idées. Par contre, on a une exigence qui est celle de l'argumentation rationnelle de leurs propos. Donc le principe, c'est un devoir de réserve, mais qui n'est pas formalisé dans un texte de loi. Par exemple, en France, on a vraiment une obligation de laïcité pour les enseignants dans l'école publique, donc les choses sont assez claires, au moins en principe. Et ensuite, il y a effectivement la réalité de l'enseignement et les questionnements. Personnellement, dans ma pratique enseignante, mais évidemment c'est une pratique universitaire, moi je défends et je mets en œuvre la posture de devoir, le devoir de réserve, mais je comprends bien que dans le cadre de l'enseignement, par exemple l'enseignement primaire, dans une relation de confiance, ça puisse être un peu différent. Donc c'est une vraie question à laquelle on ne peut pas répondre de façon tranchée et définitive surtout.
Merci. D'accord. Et puis après.
Stop.
J'aimerais juste vous adresser une question plus technique, c'est-à-dire comment, dans quel cadre scolaire, donc la forme concrète que prend ce type de cours, c'est-à-dire est-ce que ce n'est pas un cours par définition interdisciplinaire qui normalement devrait être donné par plusieurs enseignants, justement étant donné la complexité, justement l'objet. Est-ce que c'est le cas au Canada? Est-ce que c'est un enseignement individuel? Parce que si effectivement il doit répondre à toutes ces exigences que vous avez nommées, il me semble effectivement que la formation doit être extrêmement poussée.
Tout à fait. Alors, pour l'enseignement primaire, c'est un enseignant titulaire. Donc, c'est l'enseignant qui enseigne toutes les matières, qui va enseigner éthique et culture religieuse, pour laquelle ils reçoivent une formation. Moi, je forme, par exemple, des futurs enseignants du primaire. Donc, ils ont un cours obligatoire dans le cadre de leur formation. Mais je dirais qu'effectivement, c'est un cours qui pose des bases solides, mais que ça nécessite quand même une formation tout au cours de l'enseignement. Au secondaire, ce sont des enseignants spécialistes. Qui ne donne que cet enseignement. Donc au primaire, c'est une heure par semaine. Au secondaire, c'est un volume horaire annuel qui n'est pas énorme. C'est 100 à 150 heures à peu près. Donc ce sont des enseignants spécialistes qui souvent enseignent dans différentes écoles ou dans différentes classes en tous les cas et qui sont normalement des spécialistes de la question. Mais je vous dirais qu'il n'y a pas de spécialiste de toutes ces traditions religieuses, même dans le monde universitaire. Il n'y a pas de spécialiste de toutes ces questions éthiques. Alors, le fait est que comme le programme est vraiment construit autour des apprentissages des élèves, ce sont aux élèves à aller chercher, si vous voulez, en étant encadrés par l'enseignant, des bonnes ressources et des questions à un certain nombre, des réponses, pardon, à un certain nombre de questions. Donc, la question de la qualité de la formation, elle est essentielle, mais je pense qu'il y a également une responsabilité en tant qu'enseignant, c'est de se former tout au long de sa carrière professionnelle et de mettre à jour ses connaissances, que ce soit par des lectures, par Internet, par des conférences, etc. Parce qu'on ne peut pas être complètement formé à ces questions-là. Enfin, moi, je continue à me former, je continue à apprendre énormément de choses alors que je travaille sur ces questions depuis pas mal de décennies maintenant, enfin quelques-unes. Et donc, je ne vais pas me dire autre mesure. Mais voilà, il y a vraiment un apprentissage tout au long cours. Et c'est vrai que pour des enseignants, il y a parfois un manque de temps qui leur pose problème.
Merci.
Voilà, j'espère avoir répondu.
On a encore deux questions. Là-bas, au fond, d'abord. Je crois qu'il y avait quelqu'un avant. Oui, monsieur, alors ? Alors, là, il y a une cuisine qui se dépasse complètement. Excusez-moi. Oui, monsieur.
Oui. Je reviens sur la question de monsieur tout à l'heure à propos de la possibilité de donner un enseignement sans présenter d'une certaine façon ses propres convictions. Et je la rapproche de la première question de monsieur ici tout à l'heure à propos des élèves qui seraient tentés de faire du prosélytisme en présentant leurs propres convictions. Et je me demande personnellement s'il n'est pas plus dangereux de faire état d'une espèce de neutralité, de ne pas sortir ses convictions, et si ses convictions ne sortent pas plus violemment en se camouflant derrière une sorte de neutralité prétendue, que en disant ouvertement « voilà ce que moi je pense », vous n'êtes pas obligé de penser la même chose, et voilà ce que d'autres pensent. Et ceci est valable autant pour les élèves que pour l'enseignant. Je ne pense pas que quelqu'un puisse aborder ces thèmes sans avoir aucune conviction. Et je rejoins enfin, aussi la position, enfin, je me pose à la position du mouvement laïque québécois qui prétend que lui-même n'adhère pas à une sorte de religion qu'on pourrait appeler le laïcisme.
Je vous remercie. On va peut-être prendre dans la foulée la question de monsieur, puis vous répondrez peut-être en bloc parce qu'on arrive près de l'heure de la pause. Monsieur.
Merci. Oui, d'autant plus que ma question recoupe un petit peu ce qui a déjà été dit, mais un des points qui paraît essentiel que vous avez abordé de façon tout à fait intéressante, c'est la formation des enseignants. Pour l'instant, à Genève, nous en sommes encore au prolégomène parce que c'est vrai qu'il y a maintenant un programme qui prévoit cela, mais la formation, ça m'intéressait de savoir en deux mots comment elle s'est institutionnalisée au Québec, comment ça marche en quelque sorte, comment aussi vaincre à certains égards des résistances parfois non révélées mais militantes, notamment pour la partie non pas éthique mais la partie culture religieuse.
Mm-hmm. Merci. D'accord. Je crois qu'on va répondre. Oui.
D'accord. Alors, pour la question des convictions, il faut distinguer celle des enseignants et celle des élèves. Donc, la posture professionnelle, c'est que les convictions d'un enseignant, il n'a pas à en faire état. Ça, c'est le principe, comme je le disais tout à l'heure. Il va garder ses convictions pour lui-même, dans le but de ne pas influencer les élèves en leur disant « voilà, c'est ce que je pense » et que les élèves ne cherchent pas à ensuite lui plaire ou à dire ce qu'ils pensent, qu'ils souhaiteraient qu'ils entendent. Par contre, pour les élèves, totale liberté évidemment de conscience et d'expression de leurs convictions. Effectivement, le prosélytisme peut constituer une difficulté ou un écueil. C'est pour ça que le fait de toujours demander d'argumenter, de raisonner. Par exemple, dans les sophismes, on travaille sur l'argument d'autorité. Donc, si on dit « oui, mais moi, c'est ce qu'on m'a dit qu'il fallait penser », on va essayer de « pourquoi ?» Quels sont les arguments de ces personnes qui te disent que c'est ça qu'il faut penser ? Quels sont leurs arguments ? Donc, c'est essayer toujours de travailler sur le pourquoi, sur le comment, sans porter de jugement de valeur et en accueillant la diversité des expressions. On a néanmoins des balises très claires qui sont qu'on refuse tout propos qui serait un propos raciste, sexiste, misogyne, etc. Donc, devant tout propos qui porterait atteinte au respect de l'autre et à une qualité d'échange en classe, on doit, en tant qu'enseignant, intervenir très fermement. Donc, c'est pas le tout se vaut et on peut dire tout ce qu'on pense. Il y a quand même des limites extrêmement claires. Alors, de la part des enseignants, c'est vrai, moi, j'ai entendu des enseignants qui me disaient « moi, je suis athée » et je commence mes cours en disant que je suis athée et j'estime que je dois leur dire. Bon, c'est la même chose que dire « je suis croyant » ou voilà. Donc, c'est faire état de ses convictions. Faire état des convictions ne légitime pas la qualité d'un discours, qu'il soit d'ailleurs en faveur ou en défaveur. Là n'est pas le propos. Je pense que c'est, enfin, y a un travail à faire, un décentrement de soi, prendre la distance avec ses convictions de façon à laisser un cadre libre, très libre et très serein aux enfants, aux jeunes dans la classe pour s'exprimer. Mais c'est sûr que c'est une difficulté. Pour ce qui est de la formation des enseignants, on est bien d'accord que c'est vraiment un défi absolument essentiel. Donc, comme je l'ai montré, on a vraiment manqué un peu de temps, nous, dans notre implantation. Donc, on a mis en place une politique quand même dans toutes les régions du Québec extrêmement ambitieuse en termes de formation, pour que tous les enseignants aient bénéficié au moins d'une formation minimale. Et alors là, ce que j'ai constaté, j'ai une recherche en cours, c'est qu'il y a une très grande disparité. Par exemple, à Montréal, il y a vraiment eu des formations extrêmement nombreuses et diverses, mais dans certaines régions, les gens ont eu 2 journées. Alors 2 journées, c'est pour se familiariser avec le nouveau programme, avec la posture professionnelle, mais c'est sûr que c'est tout à fait insuffisant et que certains enseignants qui ne se sentent pas vraiment à l'aise ont tendance à éviter un peu des stratégies d'évitement ou en tout cas de trouver des moyens de faire un peu différemment de ce que le programme souhaite. Donc je pense qu'effectivement le programme ne peut fonctionner que si on laisse du temps au temps, que si on sort, et enfin on commence à en sortir, des controverses médiatiques et juridiques qui ont été extrêmement négatives et qui n'ont vraiment pas aidé à une implantation sereine. Donc là, je pense qu'avec les jugements que je vous ai présentés, on est sorti de cette période-là, et qu'il faut vraiment laisser du temps aux enseignants pour s'approprier ce programme, s'approprier ces nouveautés et l'implanter, et ensuite, effectivement, de faire un bilan rétroactif et de voir là aussi ce qu'on peut améliorer, ce qu'on peut supprimer, parce que ce programme, tout aussi intéressant et riche soit-il, est perfectible. Et il y a déjà des aménagements qui lui ont été apportés. Donc je pense qu'il faut être très attentif, et c'est notre rôle aussi en tant qu'universitaire, d'être très attentif aux réalités de terrain et aux ajustements qu'il faudra faire. Donc ce qui est envisagé, mais c'est à moyen terme encore, c'est de faire un peu un état des lieux de cet enseignement et de voir comment les choses se passent, tant pour les enseignants, pour les élèves, et de voir de la sorte ce qu'on pourrait faire pour l'améliorer. Mais une chose est certaine, on ne reviendra pas en arrière, on ne reviendra pas des enseignements confessionnels. On est totalement sorti de ce modèle-là. Et ce choix quand même de considérer qu'il est important que les enfants entendent parler de la diversité religieuse et de la diversité des conceptions de la vie bonne, religieuse ou non religieuse, c'est quand même, me semble-t-il, une exigence de l'éducation aujourd'hui dans les sociétés dans lesquelles on vit.